Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Heading for the station with a pack on my back. I'm tired of transportation in the back of a hack. I love to hear the rhythm of the clickety-clack and hear the lonesome whistle, see the smoke from the stack and pal around with Democratic fellas named Mac. So take me right back to the track, Jack.
Bonjour, le litre d'essence dépasse les 2 euros à la pompe. Du côté de l'inflation, le pire est à venir, selon les analystes qui prévoient une hausse de 200 euros sur le budget alimentaire annuel des Européens, sans parler du montant des factures d'électricité qui n'en finit pas de grimper. Les conséquences de la guerre en Ukraine se font sentir partout en Europe et avec elles, l'urgence de sortir de la dépendance aux hydrocarbures russes. L'Ukraine et l'énergie seront d'ailleurs au cœur d'un sommet extraordinaire du Conseil européen qui se tiendra lundi et mardi prochain. En attendant, poids lourd de l'UE, l'Allemagne a décidé de miser sur les transports publics. Berlin vient d'adopter le ticket à 9 euros par mois. La mesure est en vigueur depuis le début de la semaine. 9 euros, un prix unique pour tout le pays qui permet d'emprunter réseaux urbains et trains régionaux depuis Berlin. Julien Méchaussy.
Un engouement historique, du jamais vu. Les dirigeants de la Deutsche Bahn, compagnie ferroviaire publique, ont presque du mal à y croire. Au lendemain de la mise en vente, plus d'un million de tickets mensuels à 9 euros avaient déjà été vendus. L'expérience est d'abord prévue pour 3 mois, avec un coût minimum de 2,5 milliards d'euros financé par l'État fédéral. Objectif affiché par Berlin, convaincre les automobilistes de descendre de leur voiture et faire diminuer la consommation de carburant. Très fortement dépendant au pétrole et gaz russe, le pays se démène pour réduire ses importations. Et le ticket mensuel à 9 euros a de quoi séduire. Bus, tramway, métro, trains régionaux, un usage des transports en commun illimité, à l'exception des trains longue distance qui permet de traverser tout le pays. L'Allemagne emboîte ainsi le pas à Vienne, la capitale autrichienne, avec sa carte annuelle à 1 euro par jour et fait même encore mieux, 9 euros par mois, cela revient à 30 centimes par jour. Mais ce succès ne doit pas faire oublier que la mesure s'est imposée en urgence après la remise décidée sur les prix des carburants à la pompe. Une subvention des énergies fossiles qui avait provoqué la colère du parti écologiste au pouvoir au sein de la coalition. Projet audacieux, le ticket à 9 euros pourrait aussi mettre en lumière le manque d'investissement depuis de nombreuses années dans des infrastructures vieillissantes, souvent raillées pour ses retards et ses pannes presque systématiques. La Deutsche Bahn a déjà annoncé vouloir augmenter ses capacités de 60 000 voyageurs par jour. Les syndicats de police redoutent quant à eux des trains bondés et des risques pour la sécurité des voyageurs. Did you call me? Did you speak truth? When you dug wounds, when you spilled blood, did you say love? When you promised the most high, you won't betray.
Depuis le début de l'année, il y a eu en France 52 féminicides, 52 femmes tuées parce que femmes. Et dans l'immense majorité des cas, c'est par leur compagnon ou leur ex-compagnon, selon les chiffres rassemblés par le collectif Féminicide. Grande cause nationale du précédent quinquennat d'Emmanuel Macron, les violences conjugales peinent à se réduire. Les organisations de défense des droits des femmes dénoncent un manque de moyens. L'arsenal législatif a été renforcé, les forces de l'ordre sont mieux formées. Mais les résultats sont peu visibles. Illustration à Amiens, dans le nord de la France. Amiens qui a organisé un forum de l'égalité au palais de justice pour informer sur le sujet. L'occasion de faire le point sur la manière dont sont prises en compte les violences conjugales et de constater les manques, Lise Verbeek.
Parmi les acteurs présents au forum et très peu connus du public, il y a cette brigade un peu particulière, les gendarmes de la maison de confiance et de protection des familles. Ils sont 7 à intervenir dans tout le département de la Somme, en majorité pour des violences conjugales. L'adjudant-chef Damien Charon, qui dirige la brigade, en explique le fonctionnement.
Alors en fait, nous, à l'origine, on est saisis par nos camarades du terrain. La plupart du temps. Dès lors que la brigade va intervenir, va constater un souci, donc qu'il soit judiciarisé ou pas, la brigade va nous réaliser une fiche, en gros, hein, une fiche de liaison, ils vont nous l'envoyer, ainsi qu'à l'intervenante sociale gendarmerie. Pour nous, c'est le top départ. C'est le top départ en se disant, maintenant, il faut aller rencontrer cette famille. Alors, on ne prévient pas, parce que ça serait trop simple de prévenir ces familles, parce que parfois, la vérité peut être cachée ou ce genre de choses. Donc là, quand vous arrivez à 9h du matin et que vous constatez qu'il y a une problématique d'alcool, on se dit déjà qu'il y a quelque chose à travailler. Voyez. Et quand on intervient, alors c'est soit soit on est les bienvenus, ou soit après, bah voilà, des fois c'est un peu compliqué, c'est un peu tendu. Mais lorsque les personnes comprennent que l'on est réellement là pour leur venir en aide, c'est là où cette confiance va se mettre en place. Et puis, il faut savoir que dans mon équipe, on a été choisi par rapport à notre pouvoir empathique, on va dire. On a cette facilité de pas de se mettre à la place, parce qu'on ne peut pas se mettre à la place des gens, mais de pouvoir avoir cette compassion pour les accompagner sur leur chemin.
Car c'est aussi cela qui est souvent reproché par les victimes aux forces de l'ordre dans les dossiers de violence conjugale, le manque d'écoute et de compréhension du phénomène d'emprise, même si cela tend à changer d'après l'avocate amiénoise Sérène Medrano, qui représente beaucoup de victimes.
Tous les professionnels sont de plus en plus formés à toutes les formes de violence, les enquêteurs également. Il y a eu une vraie évolution sur le travail des enquêteurs avec des questionnaires très précis qui permettent d'aborder tous les aspects. C'est vraiment intéressant parce que ça permet à la victime elle-même de réaliser ce qu'elle avait vécu, alors que d'elle-même, elle leur dit bah non, mais ça, voilà, j'ai vécu ça, mais c'est tout. Et puis plus on lui pose des questions, et puis ah oui, ça c'est vrai, ça aussi. Et ça, oui, mais ça, ça, et voilà, et j'avais pas vu ça comme ça. Et aussi les personnes qui sont dans une telle emprise, que finalement, elles réalisent petit à petit, en sortant de cette emprise, que non seulement elles ont vécu l'inacceptable, mais qu'elles ont laissé vivre parfois aux enfants l'inacceptable. Et ce moment-là est encore plus douloureux finalement, parce que ce moment de réaliser mais j'aurais dû partir avant, il est vraiment vraiment difficile. Ce sont des moments où les personnes ne doivent pas être seules, que ce soit avec les associations, les avocats, tout le monde est vraiment à l'écoute et très sensibilisé, et ça c'est une vraie belle évolution.
Autre progrès que note l'avocate, le recours renforcé aux ordonnances de protection. C'est la saisie en urgence du juge des affaires familiales qui peut décider d'empêcher l'auteur des violences de s'approcher des victimes ou la mise à l'abri de ces victimes. La décision du juge est rendue dans les 6 jours.
Ce qui est intéressant dans l'évolution de l'ordonnance de protection, c'est que désormais, on n'est plus obligé d'avoir porté plainte pour pouvoir saisir le juge des affaires familiales. Donc c'est vrai que ça simplifie finalement certaines démarches et le premier contact avec l'avocat. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas « Ah là là, va falloir que je porte plainte et puis je n'y arrive pas ». Donc parfois, bon, on peut déposer la demande sans plainte. Néanmoins, le fait d'avoir parlé avec un avocat, ça va parfois libérer justement cette angoisse d'aller porter plainte de façon à verrouiller en définitive le dossier quand il s'y prête.
Des avancées saluées par les associations, mais elles pointent un manque de moyens humains et financiers constants, notamment pour les places d'hébergement d'urgence des victimes. Il faut aussi, selon elles, faire davantage de prévention et s'intéresser aux auteurs des violences. Elles sont de plus en plus nombreuses à mettre en place des stages de responsabilisation, comme l'association Agena, basée à Amiens. Ces stages sont à la charge de l'auteur et se déroulent en 5 séances, individuelles et collectives, encadrées par un psychologue et un travailleur social.
Majoritairement, en tout cas, la violence, elle est définie par les auteurs sur la violence physique, la violence verbale.
Tiffany Montassine, directrice adjointe d'Agena.
Mais nous, l'objectif, c'est aussi de leur montrer que ça ne s'arrête pas là, qu'on a la violence économique, la violence sexuelle et tout ce qu'on peut y mettre derrière. Et on ouvre en fait le champ et certains auteurs nous disent « Ah mais ça je ne savais pas, je ne savais pas qu'effectivement c'était considéré comme un acte violent ». L'objectif de ce stage, c'est de pouvoir échanger et surtout voilà, leur montrer que ça ne s'arrête pas effectivement juste aux coups ni aux insultes, mais la violence elle est plus élargie que ça.
Et elle ajoute que ces séances permettent aux professionnels de l'association, qui accompagnent aussi les victimes, de mieux comprendre le cycle de la violence, déterminer les causes du passage à l'acte et donc de prévenir la récidive.
En Europe, presque chaque pays, chaque organisation a sa méthode pour recenser les féminicides. Certains se cantonnent à la sphère conjugale, intime, les relations familiales sont parfois comprises, pas toujours, et d'autres voient plus large et comptabilisent aussi les féminicides liés à la violence ou à l'exploitation sexuelle, par exemple. En Albanie, c'est l'omerta qui a longtemps régné sur la question, par peur du candidaton. Dans ce petit pays des Balkans, s'attaquer à la cellule familiale est en effet un tabou, mais de jeunes militantes féministes ont décidé d'en finir avec ces non-dits, Simon Rico.
Cet hiver, 20 rues de Tirana ont un temps changé de nom. Dans la nuit du 13 au 14 janvier, leurs panneaux ont été recouverts des patronymes des 20 femmes d'Albanie tuées en 2021 par leur conjoint, leur ex-conjoint ou des membres de leur famille. L'action a été publiquement revendiquée par les militantes du collectif féministe d'Albanie. Baptisée Fight Like a Girl, cette action s'inscrit dans la campagne lancée en réponse aux féminicides qui se multiplient dans le pays. À côté du nom de chaque femme victime d'un féminicide, son âge, la ville d'où elle venait et l'auteur du meurtre. La plus jeune des victimes avait 23 ans, la plus âgée 83. 20 féminicides en un an en Albanie, c'est beaucoup pour un pays qui compte moins de 3 millions d'habitants. Les féminicides et les violences basées sur le genre ne sont pas des drames privés, mais des problèmes sociaux et politiques, font remarquer les militantes du collectif féministe d'Albanie dans le communiqué envoyé aux médias. Avant d'enfoncer le clou, dans une société où la violence structurelle et patriarcale transforme les femmes en victimes et les hommes en criminels, où le crime est justifié et la victime constamment blâmée, la transformation radicale de la société est une nécessité. En 2021, pour la première fois, de grandes manifestations ont rassemblé des milliers de personnes contre les féminicides en Albanie, en demandant notamment aux pouvoirs publics de prendre enfin des mesures concrètes pour mieux prévenir ces crimes, mais aussi pour punir plus justement leurs auteurs. Selon les rares chiffres disponibles, plus d'une Albanaise sur deux dit avoir subi des violences conjugales, mais moins d'un cas sur huit a fait l'objet de signalements auprès de la police ou de la justice. Le travail de sensibilisation promet donc encore d'être long.
Obviously I'm a feminist. The question is not, am I a feminist? The question is, what kind of feminist am I? Are you an intersectional feminist? First wave, environmental feminism. Second wave, radical feminism.
Le féminisme, les droits des femmes, on les revendique partout sur la toile, sur les réseaux sociaux comme TikTok, on vient de l'entendre. On en parle aussi chez nos partenaires d'Enter avec qui vous collaborez, Alice Rouja, pour parler de l'Europe et des jeunes. Bonjour Alice.
Bonjour.
Après MeToo, parler de féminisme est devenu plus courant chez les jeunes générations?
Eh bien, en quelques années à peine, les lignes ont sensiblement bougé sur la question des droits des femmes. Il y a 10 ans, jeune ado, je feuilletais avec mes copines le Dico des filles. Gros bouquin, plein de clichés, où le maquillage et l'épilation étaient plus que recommandés aux femmes si elles voulaient plaire. L'amour était d'ailleurs uniquement présenté sous le prisme de l'hétérosexualité et les femmes n'étaient clairement pas les égales des hommes. Je cite un exemple, « Les femmes auraient un don pour l'analyse, les hommes une capacité de synthèse. » Et alors, amis auditeurs, vous auriez le droit de le penser encore aujourd'hui. Mais préparez-vous à l'éventualité qu'une ado vous tombe dessus en criant au sexisme et elle aurait raison de le faire.
Et à quoi est-ce qu'on pourrait lier ce changement de perception, Alice ?
Eh bien, à Internet, évidemment, haut lieu de sensibilisation et de partage sur les réseaux sociaux. Énormément de comptes, activistes et militants sont devenus influents auprès des jeunes via des posts ou des stories relayées massivement. Les mécaniques sociétales sont décortiquées, analysées. C'est ce que fait la militante belge Anna Toumazov sur un de ses comptes Instagram. Suivie par plus de 150 000 personnes, elle diffuse des mèmes féministes, comprenez des images virales et humoristiques pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles, par exemple. Des comptes comme le sien, on en dénombre des dizaines, en France, au Portugal ou même en Allemagne.
Comment est-ce qu'on peut ignorer le phénomène TikTok ?
Eh bien, c'est clair que tout se passe sur TikTok aujourd'hui. Fort d'une communauté de plus de 100 millions d'abonnés en Europe, dont plus des trois quarts ont entre 15 et 25 ans, le réseau social est très très investi par la cause féministe. Garçons comme filles dénoncent dans des vidéos les agressions de rue, inventent des chansons sur le male gaze, parlent ouvertement des menstruations, de leur corps qu'on sexualise, et puis on y promeut d'autres images de la femme. Par exemple, la fille sexy n'est pas forcément vulgaire, voire même aujourd'hui on peut fièrement se revendiquer comme une bimbo.
Ce qui n'est pas du tout notre cas dans ce studio. Et est-ce que pour autant les jeunes générations ont l'impression de vivre dans un monde moins sexiste ?
C'est qu'il faut du temps pour que ce dont on parle devienne concret. Pour 84% des jeunes espagnols, on est encore loin de l'égalité femmes-hommes, un chiffre qui descend à 58% aux Pays-Bas. Les mentalités évoluent, certes, mais les vécus des femmes restent sensiblement les mêmes. D'après une vaste enquête menée auprès d'adolescentes italiennes, elles sont encore 70% à affirmer avoir été confrontées à du harcèlement ou des agressions sexuelles dans l'espace public. Mais au moins, les mots longtemps contenus par des générations de femmes sortent enfin.
Et certains trouvent que ces femmes, elles parlent trop fort.
Oui, il y a toujours un revers à la médaille. Que les discours féministes soient de plus en plus médiatisés peut hérisser des poils, même au sein de la jeune génération. Et c'est ainsi qu'au Royaume-Uni, une majorité de jeunes hommes entre 16 et 24 ans estiment que le féminisme va trop loin et rend plus difficile encore la vie des hommes, les pauvres. Bon, Il y a encore du chemin.
Heureusement, ils écoutent Accent d'Europe et Alice Rouja. Je rappelle, Alice, que toutes les semaines, on retrouve votre bonne nouvelle avec nos partenaires Enter sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook, ainsi que YouTube. Le plus simple, c'est d'aller voir ça aussi tous les lundis sur le compte Twitter d'Accent d'Europe.
Oui, notre parti, parti d'Henri, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Notre parti, parti d'Henri, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti.
Notre parti, parti d'Henri, nous avons pris le parti.
Paris ou Montréal n'ont plus aujourd'hui le monopole du stand-up en français. Apparu dans les années 2000 au cœur de la série drôle diffusée sur Netflix également, les comedy clubs fleurissent aujourd'hui un peu partout, y compris à Amsterdam, aux Pays-Bas, où des soirées en français viennent juste de faire leur apparition à l'initiative de quelques jeunes passionnés du genre. Il y avait une soirée il y a quelques jours seulement. C'est un reportage de notre correspondante Anne Leray qui y a assisté.
Vous allez accueillir Patrice. Ouais !
Nous sommes ce soir dans un petit théâtre au cœur d'Amsterdam pour une soirée Dame qui rit Comedy Club. Les improvisations de la troupe Waffle ont chauffé la salle et 6 humoristes de Londres, Bruxelles et des Pays-Bas vont tester cette nouvelle scène ouverte en français. Guillaume Boissieras est l'un des initiateurs de ces soirées qu'il organise avec le comédien et metteur en scène Vincent Bonnet. Il s'est lancé dans le stand-up en 2017, commence à tourner son spectacle en Europe et ne demande qu'à faire grandir la famille.
Moi, ce que j'adore, c'est de donner envie aux gens de faire du stand-up parce que moi, j'ai découvert cette passion récemment, il y a 2-3 ans, et je vois des gens autour de moi qui aimeraient se lancer, qui rêveraient de le faire. Et donc là, c'est une opportunité, c'est pour ça qu'on lance aussi une scène ouverte.
Assia est originaire de Lyon. Elle fait ses premiers pas dans le stand-up à côté de son job dans la vente de documentaires. Elle confirme l'intérêt du public francophone pour ce genre de soirée, ravie de pouvoir venir rire dans sa langue natale. D'ailleurs, ce soir, les 75 places disponibles sont occupées et cette deuxième French Night Comedy Club se joue à guichet fermé. Ces espaces d'expression libre, ces tribunes personnelles qui prennent le public à partie, se font l'écho de la société d'aujourd'hui.
Je dirais que le stand-up, ça met en lumière un petit peu les tabous des gens. De certaines personnes qui n'oseraient pas parler de ça en public ou qui n'oseraient pas en parler tout court. Et à travers le stand-up, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent en nous parce qu'on parle quand même de sujets qui sont assez communs. Notre vie de célibataire, notre vie en tant que fille d'origine algérienne, en tant que mec à Amsterdam. Du coup, ça peut parler à beaucoup de gens. Donc, ce qui marche aujourd'hui dans le stand-up, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent en nous. Et ça leur permet de se projeter et d'avoir une vision, je dirais, d'eux-mêmes un petit peu sur scène.
Mesdames et messieurs, Assia !
J'étais vendeuse dans un coffee shop pendant presque un an et demi. Et du coup, j'ai décidé d'en faire un sketch parce que je trouve qu'en France, on a une idée du coffee shop qui n'est pas tout à fait vraie. Et on idéalise un petit peu ce monde qui est un monde déjà très masculin et aussi un monde qui est pour les touristes en vérité.
Comédien français arrivé du Brésil pour s'installer à La Haye, Patrice Haddad est l'auteur et l'acteur d'un solo autobiographique qui raconte son histoire de sous-officier animateur culturel dans la Marine nationale. Mais ce soir, c'est stand-up. Et avant d'évoquer la crise de la quarantaine en 5 minutes, il raconte comment il voit les choses.
Plus de fioritures, en fait. On dit tout le temps du stand-up, c'est du blabla, ça parle de ma life, du lavabo, de ma voiture. Non, justement, c'est là où ça se passe. Parce qu'on sait plus ce que ressentent les gens aujourd'hui. On sait plus du tout à quoi ça ressemble. La chair de poule, par exemple, tu vois. On est tellement Instagram, avec des filtres. Non, non, non. Ici, là, tu vas voir, c'est de l'art vivant. Et sur scène, je recherche à faire tomber tout ça. À faire tomber les masques, à faire tomber cette seconde peau sociale qu'on a et me rendre vulnérable. Et ça fait tellement du bien.
Et c'est vrai que ça fait du bien de rire de ses fragilités, de ses obsessions, de ses mésaventures ou simplement de choses futiles. Ce soir, aux Dames qui rient, il y avait ceux qui se lançaient pour la première fois et ceux qui tiennent déjà une série de sketchs bien rodés. Tous ont un vrai talent et une furieuse envie de partager des histoires, partir de soi et de son quotidien pour parler à tous. Les stand-uppers sont des humoristes et aussi des conteurs.
Accent d'Europe à la réalisation, Donatien Cahu. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr et sur les plateformes d'écoute. À bientôt.